Alors nous entamons ce matin la deuxième étape de notre parcours, l'épreuve à l'école de Thérèse. Et en nous arrêtant sur l'épreuve de sa fragilité humaine. Là encore, nous allons découvrir combien elle nous rejoint, car la fragilité et la vulnérabilité sont naturelles. Elles sont liées à notre humanité. Je suis fragile et vulnérable par nature. Mais cette fragilité peut être majorée par des blessures de la vie. Et là encore, Thérèse est blessée par la vie et nous aussi, nous avons pu vivre des événements extérieurs qui nous ont traumatisés. J'étais faible, si faible, dit Thérèse. Quelle est donc cette faiblesse ? Bien, c'est d'abord le contexte familial, involontairement déficient, et le contexte personnel du caractère de Thérèse. Sa mère est éprouvée par la mort de 4 enfants, elle est fatiguée par un surcroît de travail, elle est malade, elle n'arrive plus à nourrir son enfant. Et Thérèse va développer une très grande sensibilité, la rendant donc particulièrement apte à percevoir et à souffrir des frustrations et des manques. Mais c'est surtout le malheur, c'est-à-dire l'expérience de l'abandon maternel. D'abord, la mise en nourrice pendant 13 mois et demi, Thérèse sera séparée de sa famille de l'âge de 2 mois jusqu'à l'âge de 15 mois. Le décès de sa maman à l'âge de 4 ans et demi, et puis 2 séparations successives d'avec Pauline, sa deuxième maman, puis avec Marie, sa marraine. Donc une blessure d'abandon. Dans cette blessure d'abandon, dans nos blessures d'abandon, nous savons ce qui s'y trouve. Nous savons ce que nous vivons intérieurement. D'abord, l'impression d'un vide, d'un manque, d'un abîme parfois, avec une douleur affective. Des émotions, angoisse de séparation, tristesse, culpabilité, amertume. Et ces émotions amènent l'enfant et peuvent amener l'adulte plus tard à un comportement inadapté, c'est-à-dire à une manière de vivre et d'entrer en relation qui s'appuie sur un dysfonctionnement psychique et qui peut avoir d'éventuelles répercussions spirituelles. Chez Thérèse, c'est évident, particulièrement entre 4 ans et 14 ans, mais ça durera aussi au-delà. D'abord, son changement de caractère. Elle est hypersensible, timide, elle perd la maîtrise d'elle-même, elle pleure fréquemment. Elle est atteinte d'un véritable trouble anxieux de séparation au point qu'elle ne peut pas se séparer de la vie familiale au Buissonnet. Elle souffrira d'un état dépressif qui s'exprimera au cours de l'étrange maladie, d'une immaturité psycho-affective, d'une dépendance affective, d'une maladie des scrupules, de peine d'âme, d'un certain perfectionnisme, de troubles alimentaires, de difficultés de communication et de relations, particulièrement dans le milieu social de l'école. Elle souffrira de phobies, particulièrement de phobies des araignées, jusque dans sa dernière maladie. Donc voilà une réelle fragilité psychique en l'âme de Thérèse, et nous nous y retrouvons aussi dans notre propre âme, Au point que Thérèse, et cela c'est la dynamique spirituelle, aspire à l'éternelle vie de famille. Que la vie est un exil sur la terre, un douloureux exil, et qu'elle aspire à cette éternelle vie de famille. Mais on peut, c'est risqué certes, mais on peut, car c'est difficile à évaluer, estimer l'impact spirituel. On remarque que quand il y a un abandon parental, maternel, il peut y avoir une expérience de silence intérieur, c'est-à-dire d'aridité, de sécheresse, de silence douloureux, d'absence, d'abandon de Dieu. Et particulièrement à l'adolescence, après, au cours et après son séjour à Rome, et puis dans sa vie d'oraison au Carmel, Jésus semble dormir. Cette expérience de l'absence de Dieu s'appuie parfois sur l'expérience sensible humaine de l'absence, de l'amour maternel pour Thérèse. Sa sœur disait aussi « La crainte d'offenser Dieu a empoisonné sa vie. » La retraite avec le père Domin, qui lui parle de l'enfer, de la communion sacrilège, du péché mortel, etc., va faire émerger la maladie des scrupules. La crainte d'être séparée de la source de l'amour. La crainte, la peur d'être séparée de Dieu. La peur de l'enfer. Voilà une possible conséquence spirituelle. On peut même se demander si les doutes, le doute qu'elle a vécu, les tentations contre la foi, ne s'enracinent pas, elles aussi, pour une part, dans ce démarrage de vie difficile. Comment Thérèse va vivre et traverser cette fragilité humaine ? Eh bien, comprenons bien qu'elle est d'abord habitée, comme tout un chacun, comme nous, de grands désirs. Elle a soif d'être aimée et d'aimer infiniment, elle a soif de bonheur, des grands désirs et une faiblesse. Voilà une dualité antinomique, car ces grands désirs, elle ne peut pas les réaliser, puisqu'elle est fragile, elle est faible, et elle est tentée de se décourager. Elle veut découvrir la science de l'amour, elle veut vivre une rencontre comblante avec Dieu, elle veut aimer infiniment, et elle n'y arrive pas. Elle fait donc l'expérience de sa pauvreté de cœur, de son incapacité intérieure. Et c'est dans cette pauvreté de cœur que va grandir et s'abriter l'infini de son désir. Et il faut bien saisir cela, parce que c'est tellement important pour nous. Nous avons dans notre cœur un immense appétit de grandeur, de puissance. Nous voudrions réussir notre vie, qu'elle soit belle, qu'elle soit grande. Nous aimerions être grands. Nous aimerions être honorés, estimés, appréciés, aimés. Et cet immense appétit de grandeur, de puissance se heurte à notre faiblesse, au silence de Dieu. Thérèse parle souvent de son grand amour propre. Avec son grand amour propre, avec ses grands désirs, avec cette quête de perfection teintée de perfectionnisme, le risque d'orgueil spirituel est majeur. Et le père Pichon lui avait dit, quand il lui a signifié qu'elle n'avait jamais commis de péché mortel, « Remerciez Dieu, car vous pourriez être un démon. » La plus grande tentation, surtout sur le chemin de la sainteté, c'est l'orgueil spirituel. Eh bien, le chemin de Thérèse, son désir de sainteté, va s'accomplir sur fond d'impuissance. c'est-à-dire dans une pauvreté intérieure croissante, cette pauvreté l'amenant à compter sur Dieu, et sur Dieu seul. L'esprit d'enfance va naître en Thérèse dans cette connexion entre un désir sans limite et une absence de prétention, du fait d'une expérience de pauvreté pendant 10 ans, de 4 ans à 14 ans. Thérèse sera dans l'impuissance totale. Et c'est cette pauvreté qui crucifie l'appétit de puissance et qui l'amène à compter sur Dieu son Père. Elle va lutter pendant 10 ans pour acquérir un plein empire sur ses actions. Elle le veut, elle y développe toute sa volonté et elle n'y arrive pas. Elle ne le peut pas. Alors certes, c'est particulièrement précoce et en cela, on ne peut pas la rejoindre, 4 ans à 14 ans, mais c'est une expérience radicale que nous faisons tous, parfois beaucoup plus tard, mais nous la faisons quitte à la faire à la fin de notre vie. Expérience radicale d'impuissance, d'incapacité à y remédier par mes propres forces. Et ça, elle ne l'oubliera jamais. Apprivoiser notre fragilité est un long chemin. C'est la base de la petite voix. C'est la base de son expérience de la miséricorde divine. De cette jonction entre grand désir et fragilité jaillit la confiance. Et cette confiance l'établit dans l'abandon. Et cette attitude d'abandon l'achemine vers la paix intérieure. La paix d'être aimé inconditionnellement par Dieu. La paix d'expérimenter cet amour. Je ne puis m'appuyer sur rien, sur aucune de mes œuvres, pour avoir confiance. On éprouve une si grande paix d'être absolument pauvre, de ne compter que sur le bon Dieu. Voilà donc la pauvreté de cœur, c'est de ne pas compter sur soi. Alors encore une fois, je peux compter sur moi, sur ce que je sais faire, j'ai des capacités, j'ai appris un métier, je sais ce que je sais faire et que je peux le faire bien. Je l'ai développé, mais ça me vient de Dieu. Mais là, on est dans la démarche de la vie spirituelle. Il s'agit donc d'aimer de manière désintéressée, il s'agit de pardonner, il s'agit d'être patient dans l'épreuve, il s'agit d'espérer, de persévérer. Et là, je suis incapable de quoi que ce soit si la grâce ne m'était pas donnée. Donc cette expérience particulièrement puissante, violente, de ces grands désirs et de cette incapacité caractérise le chemin de Thérèse et elle pose la pierre de la confiance, de l'abandon et elle expérimente la paix. Voilà pourquoi Thérèse attire tant notre âme, car nous aussi nous avons l'expérience de la perte, de l'absence, du vide, du rejet, de l'errance, de l'abandon. Et c'est pour cela que son message nous rejoint et nous touche. Elle a la clé, elle nous montre, parce qu'elle y est passée avant, elle nous montre par où passer. Elle est comme un guide en haute montagne. Mais je pense qu'elle ne dirait pas pour l'ascension des plus hauts sommets, mais plutôt guide de haute montagne pour apprendre à descendre dans les vallées profondes. Donc voilà le fondement de l'expérience de Thérèse. Il s'associe à la grâce de Noël, car en un instant, le jour de Noël 1886, elle fait l'expérience de la toute-puissance transformante de l'amour de Dieu. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit. se contentant de ma bonne volonté. Et quelques mois plus tard, elle raconte, en contemplant le crucifix, dont Jésus en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Elle va commencer à entendre l'appel de Jésus, « J'ai soif ». Oui, Dieu a soif que nous l'aimions. Et il le dit avec une grande délicatesse. C'est ainsi que va naître dans le cœur de Thérèse ce désir de connaître le cœur du bon Dieu et en même temps cette soif de sauver les âmes, comme elle dit, ou de prier pour les prêtres. Elle expérimente que l'amour divin est infini, que cet amour de Jésus, de Dieu, veut se donner. On dit même en théologie, veut se répandre, veut se donner. Qu'il se répand sur ceux qui se livrent à lui dans une foi nue. Une foi nue, c'est une foi sèche, dans la sécheresse. C'est-à-dire sans ressenti. Et dans une espérance, c'est-à-dire une confiance, pauvre de tout. Voilà ce que Thérèse va commencer à comprendre du caractère du bon Dieu, du cœur de Dieu. Nous sommes invités à répondre aux besoins, entre guillemets, de Dieu, de se donner. Le propre de l'amour, c'est de se donner. C'est de se répandre, c'est de s'offrir à l'autre. Et c'est cela qui fait la joie de Dieu. La nature de l'amour divin, c'est de donner, c'est de se donner. Et plus Dieu se donne, plus Dieu est heureux. Le Père, ainsi, trouve toute sa joie en son Fils. Et son Fils a toute la faveur de son Père, parce que le Fils est dans la pauvreté absolue. Il ne compte jamais sur lui-même, il reçoit tout de son Père. Et il est dans la reconnaissance permanente de la bonté et du don du Père, qui l'engendre, qui lui donne la vie, qui le fait être fils. Donc, fort de cette expérience intérieure, Thérèse va se poser la question, mais comment se disposer à le recevoir? Comment attirer cet amour qui ne demande qu'à se répandre? On voit bien que dans l'Évangile, Jésus tressaille lorsque la foi est ardente. Et Jésus peine quand on lui dit « si tu peux faire quelque chose », c'est-à-dire quand on doute de lui. Ce qui blesse le cœur de Dieu, ce sont nos manques de confiance et de foi. Ce qui réjouit, ce qui fait tressaillir le cœur de Jésus, c'est notre foi. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Et cette foi qui s'épanouit en espérance, la foi qui espère, c'est la confiance. Ouvre les écluses de l'amour divin. Certes, Dieu peut me mettre dans une situation où il va éprouver, c'est-à-dire il va vérifier, est-ce que tu as vraiment la foi? C'est-à-dire, est-ce que tu crois vraiment en moi? Et je vais me retrouver dans une situation où je vais vivre un délaissement apparent de Dieu, de la Providence. Et c'est le moment où Thérèse nous apprend à offrir notre confiance. Donc la confiance, c'est l'espérance tout imprégnée d'amour qui nous amène à une attitude d'âme qui consiste à s'abandonner. Exactement comme le petit enfant une fois qu'il est monté sur les genoux, une fois qu'on l'a pris sur les genoux, va s'abandonner contre le cœur de sa maman ou le cœur de son papa et s'endormir. Parce qu'il est bien, parce qu'il est confiant, parce qu'il est en sécurité. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. On obtient de lui autant qu'on en espère. Ça, c'est une phrase particulièrement importante. On obtient de lui autant qu'on en espère. Et Thérèse nous apprend que ces grands désirs qu'elle a dans son cœur, ces grands désirs que nous avons dans notre cœur, nous devons y être très attentifs. Car Dieu me fait désirer ce qu'il veut me donner. Si je désire quelque chose, et si je désire quelque chose qui me semble complètement inaccessible, je ne pourrai pas l'atteindre par mes propres forces, mais si je le désire vraiment, et que je mets mon espérance en Dieu, Dieu me le donnera, car il me donne ce qu'il me fait désirer. C'est Saint Jean de la Croix qui nous apprend cela et qui l'a appris à Thérèse. Donc Thérèse saisit que la joie de l'amour divin, la joie du Père, la joie de Jésus est beaucoup plus grande lorsqu'il peut donner beaucoup. Jésus nous le raconte à propos de la brebis perdue et des 99. Qui ne sont pas en perdition, ou en tout cas qui ne demandent rien. Ou bien la joie du Père devant le Fils prodigue. Finalement, notre fragilité, notre faiblesse, notre misère offre à l'amour divin une capacité réceptive. Nous sommes des vases d'argile. Une capacité réceptive, et plus je suis misérable, plus je suis pauvre et bien persuadé de l'être, pauvre de cœur, plus je suis comme un vase ouvert pour accueillir le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Et qui est celui qui te parle? C'est toi qui l'en aurais prié. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc le bonheur de Dieu, c'est de donner gratuitement. Et plus il peut donner, plus il est heureux. Car plus il exprime sa nature, il peut montrer plus parfaitement, d'une certaine manière, ce qu'il est. Amour, amour don, amour désintéressé. Il peut mieux exprimer ce qu'il porte en lui-même et donc manifester une grâce qui va me permettre de le connaître. Mais de le connaître par le cœur, de le connaître à l'intime, de connaître son caractère. Et c'est vrai que cette joie de Dieu nous déconcerte. Nous, les fils aînés, qui voyons le fils prodigue, comment il est traité, ou qui voyons les ouvriers de la dernière heure, qui sont payés autant que moi, qui suis dans la maison depuis le début et qui travaille. Oui, nous sommes déconcertés par cette profondeur de l'amour de Dieu. Mais laissons-nous déconcerter. Et surtout, comprenons que notre pauvreté que nous aurions envie de cacher, d'écarter, d'éloigner, c'est le lieu même de la rencontre. Voilà le message de Thérèse. Il faut être pauvre, pauvre de cœur, même misérable. Présenter cette pauvreté à la puissance d'expansion de l'amour divin pour l'attirer et le réjouir. Ma nourriture, c'est de faire la joie de mon Père. Voilà ce que dit Jésus. Eh bien, nous pouvons à notre tour, voyez, que ma nourriture soit de faire la joie de mon Père. Et donc d'être petit comme un enfant qui attend tout de son Père. comprenez que pour aimer Jésus, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour consumant et transformant. Il faut consentir à rester toujours pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Cette phrase est à écrire en lettres d'or. Il faut consentir à rester pauvre de cœur et sans force. Et voilà le difficile. Car si je reste pauvre, je me tourne vers Dieu, j'attends tout de lui. Et si je suis sans force, je m'appuie sur sa force. Et là, je suis dans la même disposition que saint Paul. C'est le fondement de la petite voix. Le ton véhément de cette déclaration signifie bien combien c'est important dans le cœur de Thérèse. Cette alliance de la fragilité, je suis fragile, c'est une réalité, c'est le vrai de ma vie. Ma fragilité m'invite à consentir à être un pauvre de cœur. C'est la première béatitude. Et c'est la première béatitude qui est au présent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Dieu peut venir régner dans notre cœur. Mais je vais consentir. Vous voyez, là, j'exerce ma liberté, je consens à cette pauvreté. Donc, la réalité de ma fragilité m'amène à consentir à ma pauvreté de cœur. Alors, je me tourne vers Dieu et je lui dis ma confiance. Troisième étape, je lui dis ma confiance, je m'appuie sur lui et je lui dis, je m'appuie sur toi parce que je t'aime. Donc, je mise. Vous savez, quand on est un bon financier, normalement, on mise dans un panier une partie de sa richesse, dans un autre panier, dans un troisième panier, on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Eh bien, là, vous pouvez faire mentir cette règle. Si vous voulez gagner, eh bien, misez tout sur Dieu. Tout. C'est la confiance. Cette confiance nous dispose progressivement dans une attitude d'abandon. C'est-à-dire, me met dans ce mouvement où je me donne à Dieu dans de petites choses. Alors, je goûte à la paix. C'est le signe que je suis dans la bonne direction. La paix intérieure. Signe de l'union à Dieu. Signe que je suis aimé. Et c'est cela qui me met en paix. Je suis aimé par Dieu. Donc je résume quelques caractères essentiels de cette petite voix telle que Thérèse nous le présente. Qu'est-ce que c'est qu'être petit ? Comme un enfant. Le commandement de Jésus au moment où les apôtres discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Vous voyez, désir de puissance, de grandeur qui est en nous. Jésus les fait venir à côté de lui, il appelle un petit enfant et il dit clairement, si vous ne redevenez petit comme un enfant. Voilà, il ne s'agit pas de redevenir un enfant. Nous, on est un adulte, c'est fini, ce qui relève de l'enfant. Et la traduction en Saint-Marc est précisément cela. Petit comme, voilà ce qui est important. Petit comme. Cette fois, c'est avec Dieu, Dieu est mon Père, et je vais être avec lui un enfant. Comme un enfant. Je suis un adulte. Qu'est-ce que cela signifie ? On pose la question à Thérèse, elle répond. Être petit comme un enfant devant Dieu, c'est reconnaître son néant. Alors au début de sa vie carmélitaine, elle disait reconnaître son rien, ou son presque rien. Et puis elle va approfondir cela, et ça va devenir un néant. De fait, Cet orgueil spirituel ne meurt que dans le néant. C'est pour ça que Thérèse sera à la fin de sa vie dans les tentations contre la foi, réellement affrontée au néant. Et dans ce néant, elle nagera en quelque sorte avec l'arme de l'amour, de la confiance. Et c'est ainsi qu'elle vaincra. Donc reconnaître son néant, c'est reconnaître que je ne suis guère plus gros qu'un grain de sable. J'aime beaucoup méditer cette image-là. Vous prenez l'avion. Vous voyez, puis l'avion qui s'élève dans le ciel, et vous regardez par le hublot, et vous voyez toutes ces petites fourmis qui bougent partout. Là. Ben, ce sont des hommes. C'est donc moi. Quand je regarde un avion dans le ciel qui passe à 10 km au-dessus, ben, il me voit peut-être comme un grain de sable. Et puis je me suis renseigné un petit peu plus, je me suis dit, oh, mon Dieu, si je me promenais dans l'univers, je serais moins qu'un grain de sable, un atome, un proton peut-être. Savez-vous que si on réduisait le système solaire à la taille d'une tête d'épingle, je suis bien plus petit là-dedans. Eh bien, l'univers, c'est 15 milliards de kilomètres à gauche, 15 milliards de kilomètres à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas. Et cet univers, il est incapable de contenir Dieu. Il est trop petit. Moi qui suis si petit, Dieu veut venir demeurer en moi. Moi qui suis si petit, ma vocation, c'est d'être le temple de ce Dieu si grand que l'univers ne peut pas contenir. Et pourquoi cela? Parce qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il est attiré par ma petitesse. C'est ça qu'il faut comprendre du cœur de Dieu que Thérèse nous enseigne. Reconnaître son néant, c'est cela. Ma petitesse, mon néant l'attire. C'est attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père, de sa mère. Donc j'attends tout de Dieu, tout en faisant tout ce qui dépend de moi, car je suis un adulte, je ne suis pas un bébé. Aide-toi, le ciel t'aidera, mais dans le domaine de la vie spirituelle, j'attends tout de Dieu. C'est ne s'inquiéter de rien. Donc, je m'inquiète beaucoup de demain. Et Thérèse nous dit, si vous vous inquiétez de demain, vous vous inquiétez de créer. C'est Dieu qui s'inquiète de demain, pas moi. Je remets ce demain entre ses mains. Et si je m'inquiète d'hier, bien, je le remets dans les mains de sa miséricorde. Donc, reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu comme un enfant, ne s'inquiéter de rien, et le dernier élément, ne point gagner de fortune. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bien, c'est ne point s'attribuer à soi-même les vertus que l'on pratique. C'est-à-dire, attention à la vanité. Attention à ce levain du pharisien qui, parce que je vais à la messe, parce que je prie, parce que je suis sur un chemin de conversion, je vais regarder ceux qui n'y sont pas, non pas d'en bas, mais d'en haut. Ah, moi je suis meilleur que toi. Eh bien ça, c'est le piège redoutable de la vie spirituelle quand on commence à progresser. Ne point gagner de fortune, c'est-à-dire ne point se croire capable de quelque chose, c'est Dieu qui me donne. C'est reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Et c'est toujours le trésor du bon Dieu. Si je dis quelque chose de bien, si je fais quelque chose de bien, c'est le Seigneur qui me le donne pour que je le dise, qui me le donne pour que je le fasse. Je le reconnais à haute voix et je l'en remercie. Voilà donc l'enfant, vous voyez, essentiellement pauvre, confiant, convaincu de sa pauvreté, mais plus que ça, convaincu que sa pauvreté, c'est son précieux trésor. Car cette pauvreté doit être protégée contre tous les enrichissements. J'aime pas être pauvre. Eh bien, il va me falloir aimer doucement cette pauvreté, aimer doucement cette misère, car c'est un trésor qui est menacé de l'extérieur et de l'intérieur par l'esprit de propriété. Je vais vouloir prendre des richesses pour moins sentir ma pauvreté. Je vais vouloir paraître, faire semblant. Le piège, l'ennemi de cette pauvreté intérieure, c'est donc l'esprit de propriété qui s'attribue. C'est la suffisance, c'est l'indépendance, moi tout seul. Et quand l'enfant de 2 ans dit « moi tout seul », c'est très bien, parce que c'est l'âge où il faut qu'il dise « moi tout seul ». Mais aujourd'hui, à nos âges, « moi tout seul », non, « moi avec Dieu », « Dieu avec moi ». L'indépendance, l'amour propre, la volonté propre, bref, l'orgueil. Voilà le piège. Donc il faut consentir au cours de notre vie à s'appauvrir en partageant, en donnant, en se donnant, en perdant, en lâchant prise, en se laissant dépouiller. J'aime beaucoup cette parole d'un prêtre qui disait la chose suivante, Père Thomas Philippe, la vieillesse est l'âge d'or du Saint-Esprit. Car la vieillesse nous dépouille. Le vieillissement nous dépouille. Et c'est donc cet âge d'or où je vais m'appuyer de plus en plus sur Dieu et compter sur lui. Si je compte sur moi, le vieillissement est une épreuve épouvantable. Mais si j'apprends à passer de mes propres forces à mes forces en Dieu, ce dépouillement, je commence à y consentir. Donc il faut d'une certaine manière ne pas faire de provision, de vertu, de mérite. Dieu donne ce qui m'est nécessaire pour pratiquer la vertu. Il faut que la pauvreté de mon cœur veille avec un soin particulier sur la confiance que je donne à Dieu. Et plus je suis éprouvé par ma pauvreté et que j'y consens, plus je m'appuie sur Dieu, plus je lui donne ma confiance. Et donc, je prends conscience que cette pauvreté est une richesse. Et je commence à la rechercher de plus en plus, pour m'appuyer de plus en plus sur Dieu, et donc lui donner, m'abandonner entre ses mains. C'est donc une grande grâce lorsque Dieu lui-même vient creuser cette pauvreté, vient l'approfondir par des événements qui nous dépouillent, par des lumières surnaturelles qui nous éclairent. Et nous, on le prend mal. Aujourd'hui, je suis au chômage parce que j'ai été licencié d'une manière assez surprenante. Ça me met en situation difficile, de fait. Ça entraîne aussi un appauvrissement intérieur, mais je me rends compte que c'est une grâce, car ça me permet de m'abandonner encore plus au Seigneur. C'est pourquoi Thérèse affirme que la plus grande chose que Dieu ait faite en elle, c'est lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Ses lumières sur son néant lui font plus de bien que les lumières sur la foi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Cette importance de la pauvreté associée à ma fragilité pour grandir dans la confiance de l'enfant qui s'abandonne entre les bras de Dieu. Quand on a bien compris cela, quand on commence à l'expérimenter, ça y est, on a trouvé la bonne direction. Car à ce moment-là, c'est l'heure de l'audacieuse confiance. là, je vais développer une énergie audacieuse pour me présenter devant Dieu, m'offrir à lui, alors que j'aurais envie de fuir, parce que j'ai peur, parce que j'ai rien à lui donner, parce que j'ai pas de mérite, parce que j'ai pas de vertu, parce que j'ai que du péché. C'est ainsi qu'elle parle de prendre Dieu par le cœur. Et c'est pour cela qu'elle sera si bien reçue. Pour les petits, ils seront jugés avec une extrême douceur. À l'enfant tout petit, on donne tout ce qui lui est nécessaire. Mais quand il a grandi, son père ne veut plus le nourrir. Alors la dynamique de la vie spirituelle, c'est d'apprendre à devenir petit. C'est d'apprendre à devenir comme un enfant, avec Dieu notre Père. Donc, renaître du souffle et de l'esprit, c'est consentir à devenir pauvre, à être appauvri, à être dépouillé, pour donner ma confiance et devenir dépendant de Dieu en m'abandonnant entre ses mains. Voilà la sainteté, dirait Thérèse. Je terminerai avec quelques conseils sur ce qu'on pourrait appeler l'ascèse de petitesse. Comment essayer de consentir de plus en plus à cette petitesse? Comment orienter mon énergie? Eh bien, Thérèse nous donne d'abord un conseil. Écartez ce qui est extraordinaire. Voyez, ce qui est grand, ce qui brille, ce qui est merveilleux, ce qui est hors du commun. Sans cesse, dans le milieu médiatique, dans la presse, etc. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. C'est l'esprit du monde. Thérèse elle-même va être tentée par ces grandes œuvres. Elle écrit très bien. Le récit des exploits de Jeanne d'Arc me ravissait. Je sentais en mon cœur le désir et le courage de l'imiter. Il me semblait que le Seigneur me destinait aussi à de grandes choses. Voilà, c'est tout à fait bon, ces choses-là, ce sont des grands désirs. Et quand elle dit « je sentais le courage de l'imiter », elle n'est pas dans l'action, là, encore. Et donc, bien évidemment, il y a le grand piège, qui est le piège de l'orgueil. Il me semblait que le Seigneur me destinait aussi à de grandes choses, oui. Mais elle peut très bien partir vers le merveilleux, le rêve, la séduction. Et Jésus veillait. Peu de temps après, elle va dire, « Bientôt, le bon Dieu me faisait sentir, » quand elle dit sentir, c'est expérimenter, « que la vraie gloire est celle qui durera éternellement, et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes. » Mais de se cacher aux yeux des autres et de pratiquer la vertu en sorte que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de faire des efforts sans en tirer vanité. Cette lumière, dit Thérèse, est une des plus grandes de ma vie. Et cette lumière va marquer toute sa spiritualité et peut donc une magnifique lumière pour nous. Rien que la vie ordinaire. Et je fuis l'extraordinaire. Me cacher du regard des autres, surtout en ce qui concerne ma vie spirituelle. Pratiquer les commandements de Jésus. Car c'est ainsi que je lui prouve que je l'aime. Celui qui pratique mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. M'abaisser à mes propres yeux pour ne pas en tirer de vanité. Avoir une piètre opinion de moi. Donc Thérèse ne fera pas les actions des saints, mais seulement des actions ordinaires à la portée de tous. Rien d'extraordinaire. ne pas sortir du plan providentiel, c'est-à-dire, vous voyez, ne pas commencer à viser des actions, mais chercher à discerner sans cesse ce que Dieu veut, ne pas rechercher des souffrances qui seraient les siennes et qu'elle devrait par conséquent porter toute seule. Elle fera une expérience très parlante puisqu'elle portera une petite croix de fer avec des pointes. À l'époque, on se donnait la discipline. Et elle va tomber malade. Et ça sera une bonne expérience pour elle. Rien ne doit sortir de l'ordinaire. Donc voilà ce point important de l'ascèse de petitesse, à laquelle elle associe la fidélité aux obligations familiales, professionnelles, ce qu'on appelle classiquement le devoir d'État, c'est-à-dire la volonté de Dieu sur ma vie, dans les petits événements quotidiens, les devoirs de la vie, l'observance des commandements de Jésus, l'obéissance à mes supérieurs, ce que les événements m'imposent de la providence ou ce que Dieu me demande dans les profondeurs de mon cœur. Et enfin, je termine, puisque le temps est clos, le troisième point, la pratique de la charité fraternelle. Thérèse va insister sur le fait que sa manière de répondre au désir du bon Dieu et de le servir, c'est de se mettre au service d'autrui. Conduire au réfectoire sœur Saint-Pierre paralysée par la goutte. Se mettre au service d'une sœur aux exigences maniaques. Donner son plus beau sourire à sœur Marie-Philomène. Offrir un objet qui lui est cher en paraissant heureuse. La plus belle manière d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de s'abandonner à la providence, c'est-à-dire aux événements tels qu'ils viennent, et de se laisser imposer le dépouillement qui m'est demandé. L'épreuve imposée est la plus providentielle. Et c'est pour ça qu'elle sera si attentive à ces petits événements où elle peut rester pauvre, donner sa confiance, s'abandonner et goûter à la paix dans l'union à Dieu. Alors, je vous invite simplement pour une mise en pratique de cet enseignement de Thérèse, de regarder un, deux ou trois événements de votre vie, donc événements d'épreuve, puisque c'est le thème, et de regarder comment vous l'avez vécu et comment Thérèse l'aurait vécu. De façon à ce que nous apprenions, avec ce que vous avez entendu, à nous mettre à son école.